Merci au groupe de louanges pour ce choix de cantique. Eh bien, je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Le retour n'était pas facile avec décalage horaire, plus une bonne grippe en rentrant. Et c'est par la grâce de Dieu vraiment ce matin que je peux m'adresser à vous. Je me demandais si j'allais pouvoir être là avec vous ce matin. Je téléphonais à Pierre, on a prié ensemble, on dit « Seigneur, renouvelle-nous » et bon, merci Seigneur, il est capable et on lui rend toute la grâce. Une chose que j'ai oublié de vous dire dans mon partage, parce que ça m'a tellement impressionné, j'ai assisté à la chapelle de l'école biblique de Philippe, et il y avait 400 hommes là, qui se préparent pour être pasteurs, pour être missionnaires. Et je dois dire que quand on voit ça, on se dit « Waouh, le Seigneur est à l'œuvre, il prépare des grandes choses, et puis il est puissant, on ne se rend pas compte de tout ce que Dieu fait dans le monde, hein. » Mais Dieu travaille dans les cœurs, il appelle des jeunes hommes, des jeunes femmes à se donner au Seigneur, à se consacrer pour son service. Et c'est vraiment impressionnant de voir ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit, sa fidélité, sa puissance dans les vies et des hommes et des femmes qui se consacrent à Dieu, qui sont prêts à le servir, à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter la bonne nouvelle et se donner entièrement au Seigneur. C'est vraiment impressionnant cela. Le sujet de ce matin est assez particulier. Avant d'entamer, voilà, on a enlevé mon scoop. avant de regarder une autre série, je pensais que ce serait bien de prêcher Jonas. Dimanche prochain, on va faire un culte sur l'évangélisation. Je vous invite vraiment à venir, et puis avec des cœurs ouverts, et que le Seigneur suscite en nous vraiment de comprendre la mission qu'il a pour nous. Et puis ça fait un moment que dans l'église plusieurs personnes me disent mais serait bien que tu nous enseignes sur ce que c'est que donner selon Dieu. Alors sujet un peu délicat, en fait rassurez-vous, peut-être que je vous ferai peur en disant ça, mais j'ai une série de 7 messages sur donner selon Dieu, selon la Bible. Et déjà l'heure est avancée, mais je n'aurai qu'un message, un peu ce que j'ai voulu faire et résumer et vous donner un petit peu ce que dit la Bible, mais c'est un sujet qui fait partie de la théologie biblique. Vous pouvez aller de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et voir ce que dit Dieu au sujet de l'argent et de donner selon Dieu. En fait, la question est de savoir ici si ça marche. Question. Mais voilà, la technique, c'est parfait. Bon, on va faire ça manuellement. Alors, la question de savoir, qu'est-ce que c'est que donner selon Dieu? Est-ce que la Bible en parle? Alors, je ne sais pas comment on va se arranger là, ou alors je n'appuie pas sur le bon bouton. Ça marche? Hein? Je ne sais pas où le... Ah, il est tombé tout à l'heure, peut-être. Voilà, question de pile. Excusez, on va se lancer. En fait, il y a 3 questions peut-être qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce que c'est que donner selon Dieu? La Bible en parle-t-elle? Avez-vous besoin d'être encouragé pour donner? En fait... Ce qui m'a impressionné dans mon voyage, dans ces grandes églises où j'ai pu juste assister, c'est de voir la prédication systématique de la parole de Dieu. C'est vraiment des messages qui sont profonds et qui exposent les Écritures. Qu'est-ce que dit la Bible? En fait, la Bible a la réponse à toutes nos questions. Si vous avez un sujet que vous voulez... approfondir, prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et faites une étude. Personnellement, l'année dernière, je m'étais fixé de lire la Bible en 1 an et puis de souligner dans la Bible toutes les prières de la Bible. Alors j'ai surligné toutes les prières de la Bible. Il y a 650 prières dans la Bible, à l'exception des psaumes. Alors vous ajoutez des dizaines et dizaines de prières à les psaumes, donc 450 exaucés. Vous pouvez ainsi, en prenant la Bible, faire une étude d'un sujet et d'étudier systématiquement ce que dit la Bible sur tel ou tel sujet. Et alors, le sujet de l'argent est tellement vaste, n'est-ce pas, qu'un message serait vraiment trop ambitieux de l'exposer. On sait que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit et joint toujours à l'idée et associe toujours à l'idée de donner la notion de joie, de liberté et de générosité. Et de donner avec joie devant Dieu. Le croyant est appelé à gérer ses biens. Ses biens ne lui appartiennent plus. Ses biens appartiennent au Seigneur. Et Dieu nous demande de gérer ce que lui-même nous a donné, sachant que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nos corps ne nous appartiennent plus, et notre argent, nos biens ne nous appartiennent plus. On est les gestionnaires de ce que le Seigneur permet que nous ayons. Quelqu'un a dit que Dieu regarde à ce que nous donnons, il regarde au cœur. On va regarder ensemble ce matin que c'est l'attitude qui compte. C'est l'attitude que Dieu regarde. Et Dieu regarde à ce que nous donnons. Vous avez peut-être en mémoire l'histoire de la veuve donnée, qui a donné deux pites, qui avait donné ce qui était même l'essentiel de sa vie. Et Jésus a regardé ce qu'elle avait donné. Alors, on est un petit peu mal à l'aise de savoir que finalement, Dieu regarde. Mais il regarde pas simplement à la façon avec laquelle nous donnons ce que nous donnons, il regarde à tous les aspects de notre vie. La question est de savoir, est-ce que Dieu est maître de ma vie dans ce domaine? Mais ce n'est pas le seul. Dieu s'attend à ce que je me soumette à lui dans tous les domaines de ma vie. Alors, j'aurais aimé étendre plus ce message et l'exposer de façon plus exhaustive, de manière à avoir une plus grande panoplie de ces vérités, mais j'aimerais aller à l'essentiel ce matin et regarder ensemble quels sont les dons qui sont mentionnés dans la Bible. Peut-être nous avons besoin de savoir ce que dit Dieu au sujet des dons. Quels sont les dons qui sont mentionnés dans la Bible? Il y a le mot libéralité au singulier ou au pluriel, il y a le mot aumône au singulier ou au pluriel, il y a le mot offrande au singulier ou au pluriel, il y a dîme, singulier ou pluriel, d'accord? Il y a l'acte de bienfaisance, qui est un secours apporté aux saints ou une assistance destinée aux saints. Et puis il y a aussi les promesses de la foi. Et nous allons regarder ensemble, rapidement, avant de regarder un texte en 2 Corinthiens 8 et 9, la façon avec laquelle Dieu s'attend à ce qu'on donne à l'exemple des Macédoniens et de Christ lui-même. En fait, voilà les différents aspects mentionné dans la Bible. On va regarder tout d'abord et on va définir chaque don selon cette liste. Il y a tout d'abord le don de la libéralité. Le don de la libéralité est un don spirituel que l'on trouve en Romains 12, verset 8. Alors je vous invite à tourner dans vos Bibles. On va regarder ce matin plusieurs passages. La Bible dit « Celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. » La Bible dit même que c'est un don spirituel. La libéralité, c'est le don spirituel qui consiste dans un désir intense de donner, dans la faculté de le faire conformément à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Les Tourneaux, c'est un homme de Dieu, un ingénieur qui, aux États-Unis, a consacré ses biens au Seigneur jusqu'à donner pas 10%, mais 90% de ses biens. Il y a même une fondation, une université qui a été créée grâce à sa fondation. Et cet homme-là, qui était un ingénieur, qui a conçu la plupart des grosses machines qui ont servi aux travaux publics, c'est un chrétien qui, en priant, a eu cette vision de construire ces grosses machines. Et il a appris à donner généreusement au Seigneur. C'est un don. Le don de la libéralité, le don de la générosité. Donc c'est un don qui est lié à un cœur spirituel. Et on peut lire en 2 Corinthiens 9, 5, si vous tournez dans vos Bibles en 2 Corinthiens 9, 5. Il dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité, un acte et non un acte d'avarice. Alors évidemment, le contraste avec la libéralité, la générosité, c'est la mesquinerie, l'avarice, retenir ce que Dieu voudrait qu'on donne, le retenir à son compte pour des désirs personnels et égoïstes. En 1 Timothée 6, verset 18, il est écrit « Recommande-leur de faire du bien, à propos des riches, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Et en Hébreux 13, verset 16, il est écrit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc la libéralité, c'est la générosité, ce qui peut inclure un sacrifice, ce qui peut inclure un don qui demande un effort et des privations. Je connais des gens qui se privent pour soutenir des missionnaires, qui par la foi vont accepter durant la semaine de se priver de certaines choses pour mettre l'argent de côté pour soutenir des missionnaires. Il y a aussi l'aumône. Alors l'aumône, excusez-moi, j'aurais dû mettre les versets. L'aumône, c'est en fait un don fait aux pauvres par compassion. Si on verra plus tard que la dîme et l'offrande, c'est un don fait à Dieu, l'aumône, c'est un don fait à l'homme sous le regard de Dieu. Matthieu 6, versets 2 à 4, nous enseigne, selon Jésus-Christ, l'aumône, il dit, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » L'idée ici de l'aumône, c'est un don fait par amour, par compassion de Dieu dans un cœur qui voit un pauvre dans le besoin et qui donne avec compassion. Maintenant, je me souviens, mon épouse m'a raconté une anecdote alors qu'elle était en voyage d'un pauvre qui est venu lui demander une partie de son repas. Et donc, elle a voulu l'aider, mais finalement, il voulait de l'argent. Il voulait manger, mais c'était de l'argent. Alors, elle a donné son sandwich, puis finalement, il est parti en le jetant dans la poubelle. Parce que son désir, ce n'était pas vraiment d'être aidé avec la nourriture, c'était d'avoir de l'argent. Donc, quand on aide les pauvres, nous devons faire attention de la façon avec laquelle on fait. On pourrait, chacun de nous, on a dû certainement avoir des anecdotes où on a voulu bien faire, puis on s'est aperçu que de donner à certaines personnes dans le besoin, notamment des SDF ou autres, il fallait le faire avec beaucoup de sagesse. Je me souviens, notre petite anecdote, avoir invité un clochard, un jour j'étais étudiant, j'ai eu compassion avec un clochard qui était assez porté sur le litre, hein, sur la boisson. Et je l'ai invité dans un petit restaurant, je voulais lui parler du Seigneur. Et on a pris un petit menu et là j'ai réalisé ma gaffe. Je n'avais pas réalisé que le menu incluait le vin rouge. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas évident d'aider des gens. Il faut avoir une certaine sagesse, et particulièrement les pauvres. Mais l'idée ici, c'est qu'on donne selon Dieu, en regard de Dieu, à quelqu'un dans le besoin, avec compassion, avec esprit de souffrance avec la personne, de sympathie. Et l'idée, c'est de toujours faire un don avec discrétion. Le don fait aux pauvres doit se faire avec discrétion. Il se peut que parfois, même dans une église, il y ait des frères et des sœurs qui ont une certaine pauvreté ou un besoin essentiel. Mais la Bible nous enseigne à faire cela de façon la plus discrète possible. L'aumône doit se faire avec le plus de discrétion possible pour ne pas mettre mal à l'aise la personne qui est secourue et surtout le faire sous le regard de Dieu, caché en Dieu. Un autre aspect des dons, c'est l'offrande. En fait, une offrande, alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être un jour on y reviendra pour une étude plus exhaustive. Mais en fait, l'offrande, c'est un don fait à Dieu par reconnaissance. Il y aurait beaucoup de choses à préparer avant d'arriver à ces conclusions, mais on va donner l'essentiel. C'est un don fait à Dieu par reconnaissance. Il y a par exemple dans l'Ancien Testament les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires ont servi par exemple en Exode, Moïse, Salomon et Esdras sont des exemples, et David aussi sont des exemples d'offrandes volontaires. Moïse, à un moment donné, a appelé le peuple, après avoir eu en vision la construction du tabernacle, a appelé le peuple à apporter les matériaux nécessaires pour la construction du temple. Et Dieu lui a donné en vision l'architecture du temple, le devis descriptif et quantitatif, même, je dirais, du tabernacle. Et c'est les peuples qui ont amené l'or, les étoffes, etc., de manière à construire le tabernacle. Salomon a eu la même démarche pour construire le temple. Et David, avant de laisser la place à Salomon dans sa succession, a consacré tous ses biens à la construction du temple. Ça, ce sont des offrandes volontaires. Esdras aussi a fait la même chose, Néhémie. En fait, on peut dire que ce serait merveilleux que nos églises, nos bâtiments soient bâtis avec des offrandes volontaires. C'était comme ça, en tout cas, que le peuple de Dieu en Israël glorifiait Dieu. Et c'était toujours avec la joie du Seigneur. C'était une consécration qui plaisait à Dieu et c'était toujours dans la joie du Seigneur. Et puis il y a aussi l'offrande qu'on appelle l'action de grâce. C'est une reconnaissance envers Dieu pour dire merci. Merci d'une bénédiction. Alors il n'y a pas d'obligation, ce qui est intéressant, autant dans l'aumône, autant dans l'offrande, il n'y a absolument aucune obligation. C'est un désir du cœur de rendre grâce à Dieu et pour le remercier de faire un don particulier. Alors il y a différentes façons de faire des dons particuliers, mais je pense qu'on doit apprendre à être reconnaissant envers le Seigneur. Et donc, lorsqu'on est béni de Dieu pour des bénédictions spirituelles ou matérielles, être reconnaissant envers Dieu. C'est ce qu'on appelle les offrandes. Ensuite, il y a le grand sujet de la dîme. Alors, suivant les interprétations de la Bible, il y a différentes vérités ou aspects soulignés de la dîme. Je voudrais faire juste une remarque rapide. Il y a dans la Bible la dîme qui est présentée avant la loi. Par exemple, Abraham a donné la dîme à qui ? Melchisédek. Et Jacob a promis la dîme à qui ? À Dieu, tout simplement. Attention, quand on s'engage envers Dieu, faut vraiment être sérieux. Donc on voit que la dîme est une notion qui existait avant la loi. Dans la loi, il y avait la dîme. Il y avait toutes sortes de dîmes au pluriel. Quelqu'un a calculé que l'ensemble des dîmes du peuple d'Israël, du temps de la loi, s'était accumulé pour un pourcentage équivalent à 23%. C'était une forme aussi d'imposition. C'était une sorte d'impôt qui était demandé au peuple d'Israël envers le temple, envers les lois sociales et la vie sociale, le soutien des Lévites, etc. Maintenant, Jésus-Christ n'a pas aboli la dîme dans le Nouveau Testament. Alors on peut dire qu'il ne l'a pas aboli parce que les Juifs continuent à donner la dîme, par exemple, pour le temple. Et parfois, il y avait même quelque part des excès de la part des gestionnaires du temple. Je vous lis tout simplement, vous le lisez avec moi, ce que dit le dictionnaire biblique Emmaüs. Il dit ceci: dans la Nouvelle Alliance, bien que nous soyons plus sous la loi, certains chrétiens s'efforcent aussi de donner la dîme pour l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit là que d'un acte volontaire et qui, dans beaucoup de cas, ne voudrait représenter qu'un minimum. En réalité, selon l'Évangile, ce n'est pas la dîme, mais la totalité de nos biens et de nos revenus qui appartiennent à Dieu. C'est lui-même qui nous dira comment et dans quelles proportions nous devons les utiliser. Puissions-nous être de ceux qui, semant abondamment, récoltent aussi abondamment. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de la dîme ? Personnellement, je crois qu'il y a différents aspects d'aborder ce sujet, mais je crois que la dîme est une référence quelque part biblique qui nous montre, comme dit le dictionnaire biblique, un minimum. Alors, on n'est pas obligé de donner la dîme, on n'est plus sous la loi, mais c'est une référence de proportion qui doit être considérée. Maintenant, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, qui donne 1 000 euros par mois, c'est relativement plus facile que quelqu'un qui gagnerait 1 000 euros par mois, qui donnerait 100 euros par mois. Donc la dîme, c'est un minimum, mais celui qui certainement peut donner plus est appelé à exercer le don de libéralité. C'est ce que Paul demande, par exemple, au travers de l'Épître aux Timothées, que les riches puissent être riches en dons, en libéralité, sachant que les richesses de ce monde passent. Alors, on y reviendra peut-être une autre fois. Il y a tout un sujet à développer qui est la dîme. Personnellement, je pense que la dîme est une bonne façon d'être constant dans ses dons et de donner une stabilité à l'œuvre de Dieu et un repère pour chacun de nous en tant que foyer, sachant qu'on doit évidemment équilibrer le budget par rapport aux besoins de l'œuvre et aux besoins de la famille où on est responsable, n'est-ce pas, de prendre soin de sa famille devant Dieu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'acte de bienfaisance, c'est l'assistance destinée aux saints, c'est l'action de faire du bien à quelqu'un, et on y reviendra tout à l'heure, puisqu'on va regarder, Dieu voulant, 2 Corinthiens chapitre 8 et 9. Il y a enfin ce qu'on pourrait appeler la promesse de la foi. C'est quelque chose qui peut-être peut échapper à notre lecture quotidienne de la Bible ou systématique des Écritures, mais ça se trouve en 2 Corinthiens chapitre 9. Et je vous invite à regarder en 2 Corinthiens, chapitre 9, et versets 7 à 11. Alors, le principe, on peut lire au verset 6, si vous voulez, le principe, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il y a l'idée ici que, et ce n'est pas moi qui le dis, plus on donne, plus on reçoit. Ça me fait penser à Georges Müller, qui pendant toute sa vie a voulu démontrer que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants, mais il a voulu démontrer que Dieu exauce les prières pour se glorifier. Et Georges Müller a nourri des milliers d'enfants dans des orphelinats par la foi, n'ayant jamais d'argent pour plus de 3 jours pour subvenir aux besoins de tous ces centaines d'enfants, pour démontrer que Dieu pourvoit fidèlement aux besoins de ces enfants-là pour se glorifier. Et lui-même est mort en laissant, je crois, pratiquement rien à sa mort, alors qu'il a eu entre les mains une richesse importante pour toutes ses œuvres, mais lui-même en mourant n'a eu absolument rien à léguer en héritage à ses enfants, ayant vécu lui-même dans une vie très modeste et frugale. Il est écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors il y a une bénédiction à donner, mais l'attitude à avoir, c'est toujours de donner avec joie, sur une base volontaire, parce que c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Il vaut mieux pas donner si on ne donne pas avec joie. Il faut donner avec joie au Seigneur. D'ailleurs, je pense que quand on donne, nous, en tant que croyants, on le fait parce qu'on est reconnaissant envers Dieu, parce que notre vie dépend de Dieu. Le mouvement et l'aide que nous avons, notre santé, notre bien-être, tout dépend de Dieu. Qui peut dire demain matin qu'il va se lever en bonne santé ou pas mourir aujourd'hui? Personne n'est souverain de sa vie, n'est maître de sa vie. Donc on est dépendant de Dieu et reconnaissant de ce qui nous nourrit tous les jours. Vous savez, c'est facile à dire merci Seigneur quand tous les jours il y a de quoi sur la table. Enfin, moi, on a vécu des moments où on n'avait pas à manger, mais on a rendu grâce à Dieu, il a pourvu, parce que Dieu est fidèle. Et nous devons apprendre à être reconnaissants autant dans la disette, comme disait l'apôtre Paul, que dans l'abondance. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Alors, allez-y, vous tournez dans vos Bibles, parce que c'est un point important. Je pense qu'on aura du mal un petit peu, à cause du temps, à le regarder plus en détail tout à l'heure, en lisant 2 Corinthiens 8 et 9. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Tiens, Dieu est prêt à combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours et toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc Dieu veut combler nos besoins. C'est ce qui est écrit ici. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Autrement dit, Dieu veut combler tous nos besoins avec richesse. Et en plus, il veut nous combler au-delà pour qu'on puisse avoir la joie de donner pour toute bonne œuvre. Autrement dit, l'acte de donner, c'est une bonne œuvre préparée d'avance. Et c'est dans le Seigneur. Donc c'est quelque chose que, quand on dit que nous on était sauvés par la foi, par la grâce, afin que nous pratiquions des œuvres préparées d'avance. Le pratiquer, là, dans le mot grec, c'est marcher, afin que nous marchions dans des œuvres préparées d'avance. Le Seigneur a préparé des œuvres chaque jour pour l'enfant de Dieu. Chaque matin, quand vous levez, sachez que Dieu a un plan pour votre vie. Et il a un plan aussi pour la façon avec laquelle on donne. Et Donner est un acte devant Dieu, est un acte qui se multiplie devant Dieu et qui un jour même sera récompensé. Ça paraît extraordinaire, ça montre la générosité et la bonté de Dieu. Dieu nous demande de donner, il pourvoit, puis il nous récompense après qu'on ait donné ce qui en fait ne nous appartient pas. Ça montre que Dieu est un Dieu large d'esprit et très abondant. C'est merveilleux cela. Moi je suis content d'avoir un père comme cela, généreux et plein d'amour et de bonté. Alors il est écrit, selon qu'il est écrit, verset 9, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, donc c'est même aux pauvres, sa justice subsiste à jamais, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc quand on donne soi-même, c'est un privilège que l'on a, parce que ça veut dire que déjà Dieu a pourvu à nos besoins, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Dieu dit, quelque part, vous donnez, mais c'est moi qui donne la semence, mais plus vous allez donner, plus je vais multiplier la semence, et plus vous allez pouvoir donner. Ça semble extraordinaire cela. C'est la vie par la foi dans le domaine matériel. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. La libéralité vient d'un cœur joyeux et donnée par la foi dans la grâce du Seigneur. Et vous savez ce qui se passe? Cette libéralité individuelle ou collective amène l'action de grâce individuelle et collective. Autrement dit, comme c'est une bonne œuvre préparée d'avance, Dieu en est glorifié et se glorifie au travers de cela dans l'Église autant que dans l'individu. Alors, les promesses de la foi, c'est l'idée ici que puisque Dieu dit qu'il va nous donner pour donner, plus on donne, plus il va donner. Donc, l'idée des promesses de la foi, c'est s'engager devant Dieu à donner quelque chose qu'on n'a peut-être pas, mais qu'on croit que Dieu va nous donner pour combler les besoins des autres. Donc c'est un engagement de la foi qui n'est pas de la présomption. Dieu ne demande pas de donner ce qu'on n'a pas. Mais on peut s'engager devant Dieu à donner ce qui nous manquerait tout en croyant que Dieu va le combler. C'est clair? Dieu ne me demande pas de donner ce que je n'ai pas ou de mettre en détresse mon foyer. Mais Dieu, par la foi, suscite en moi le désir de donner et de croire qu'en donnant, il va me combler de manière à ce que je puisse encore plus donner. Donc, un engagement de don, de la foi, c'est dire, Seigneur, c'est en nez, j'ai fait mon budget, je donne, bon, je dirais la dîme, mes offrandes volontaires, les actions de grâce, l'aumône, mais par la foi, je crois que tu vas me combler pour donner encore plus. Il y a par exemple des églises qui, par ce moyen-là, arrive à soutenir des missionnaires et même à dépasser le budget de leur église juste par les promesses de la foi qui sont des engagements volontaires des membres. C'est assez extraordinaire de voir ainsi qu'une église vivant par la foi peut soutenir des dizaines et dizaines de missionnaires. Alors la question est de savoir comment donner. On a déjà vu les différents dons, je les répète, n'est-ce pas ? Il y a l'aumône, je vais retrouver ma liste, libéralité, aumône, offrande, dîme, acte de bienfaisance, secours, assistance destinée aux saints, promesse de la foi. Maintenant, comment donner? Alors, je vous invite à regarder en 2 Corinthiens chapitre 8 et on va lire tout simplement le texte et on va apprendre du texte quelle est la bonne attitude parce qu'ici on nous donne l'exemple des Macédoniens. En fait, c'est une collecte que l'apôtre Paul a suscité parmi des églises. Les Macédoniens, c'était l'église de Philippe, de Thessaloniciens, de Bérée. Il y avait un besoin dans l'église de Jérusalem à cause de la pauvreté. Et Paul suscite un don, une collecte en faveur des saints qui sont dans le besoin. Et dans cette collecte suscitée parmi les saints, Le besoin des saints de Jérusalem va être comblé. Alors, je vous invite à regarder avec moi 2 Corinthiens chapitre 8 et nous allons le lire ensemble et regarder les principes qui sont suscités dans ce texte-là. On y va? Alors, je vais faire un petit commentaire après chaque principe qu'on va trouver. C'est la façon avec laquelle ce matin on va procéder pour cet enseignement. nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Paul, la première chose qu'il veut souligner dans le fait que des gens donnent, c'est que ça vient de Dieu. Et ça vient particulièrement de sa grâce. Ce n'est pas quelque chose qui a été ressenti comme imposé, comme obligatoire, mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans les cœurs et a suscité le désir de donner. Alors j'aimerais vous dire quelque chose de tout simple. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu de donner, ne donnez pas. C'est ce que je comprends dans le texte. Si vous avez la grâce de Dieu à donner, mais donnez, parce que c'est la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu et de son action dans votre cœur. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, parce qu'ils étaient persécutés, leur joie débordante, tiens, une autre source de bon comportement pour donner, et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Là, Paul, il a un langage qui nous aime. Il parle des Macédoniens avec un tel respect, des conditions de gens qui sont persécutés. Dans un temps de persécution, quelle est la réaction normale de l'être humain? C'est se protéger. C'est peut-être d'avoir un compte en banque quelque part, si je dois m'en aller, avoir un peu de j'allais dire du bacon, hein, un peu de blé pour aller me protéger. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Qu'est-ce que le texte nous enseigne ici? C'est que la libéralité, la générosité ne dépend pas du compte en banque du croyant. C'est une attitude. Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, si on est croyant, Dieu prend plaisir à ce qu'on donne avec libéralité, générosité. Ce n'est pas dépendant de l'abondance que nous avons. Parce que ce n'est pas du tout ce que vivaient les Macédoniens. Ils étaient dans une pauvreté profonde. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné avec richesse. Ça me bouleverse. Ils étaient pauvres, mais ils ont donné avec richesse. Ça me fait penser, et parfois, nous ne vivons plus cela dans notre société moderne. Mais je sais qu'en Afrique ou ailleurs, il y a un esprit communautaire qui est bien plus développé que chez nous. Et on refuse jamais d'aider quelqu'un qui passe, même s'il est aussi pauvre que nous. Il y a un esprit communautaire qui n'existe plus dans notre société, où on est très lié à l'égoïsme, à l'hédonisme et à la satisfaction personnelle. Mais ces gens-là ont donné. Ils ont donné avec joie. Waouh, c'est toute une leçon d'humilité pour nous. Ensuite, il est écrit verset 3, « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Qu'est-ce qu'on apprend? Leur acte était volontiers, volontaire. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, une proportion, et même au-delà de leurs moyens. Autrement dit, ils ont été tellement touchés par le besoin qu'ils se sont dit, ben, on va donner, malgré notre pauvreté, proportionnellement à ce qu'on peut donner, on va donner même au-delà. Donc il y a un débordement qui se fait parce qu'il y a le besoin qui est pressant et puis l'action de Dieu au travers de la personne. Alors Paul avait commencé à parler de cette collecte, je vous lis le passage, en 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2, « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Alors l'apôtre Paul était obligé d'écrire aux Corinthiens parce qu'ils étaient un peu lents à mettre en pratique ce qu'il leur avait enseigné, et puis la collecte était nécessaire. Il devait y avoir un temps pour collecter, pour ramasser l'argent, et ils n'étaient pas prêts. Mais Paul leur avait déjà dit une méthode. Et c'est le principe qu'on va retenir ce matin, que chacun de vous. Donc, moi, ça m'interpelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Que chacun de vous, tout le monde, en tant que croyant, est appelé à donner. Peu importe le montant, mais chacun est appelé à donner. Chacun de vous. Le premier jour de la semaine, donc c'est planifié, c'est calculé, c'est méthodique et c'est régulier. Le premier jour de la semaine, mette à part chez lui. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur le moment, même à l'église, c'est quelque chose qu'on planifie à l'avance parce que c'est quelque chose qu'on a mis devant le Seigneur. On n'agit pas avec sentimentalisme, on n'agit pas sous le coup d'une émotion, On agit parce que notre vie est dirigée par Dieu. C'est différent cela. Ce qu'il pourra, met à part chez lui ce qu'il pourra, donc c'est selon sa capacité, et la Bible ajoute, c'est selon sa prospérité, encore l'idée de la proportion. Donc voyez-vous, Paul enseigne clairement dans les Écritures ici comment donner. Verset 4, on continue la lecture, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Là, il y a précipitation. Une fois que Paul a fini son message, les gens se sont précipités vers lui, disent « Hé, je peux faire partie de ceux qui donnent. » C'est un privilège de donner. Ils avaient une telle joie qu'ils ne voulaient pas passer l'occasion de servir le Seigneur. C'est merveilleux cela. Alors vous avez compris l'application directe. Est-ce qu'on considère que de donner est un privilège? Moi je dis aux gens, quand vous donnez à l'église, vous ne donnez pas à l'église. Si vous pensez que vous donnez à l'église, ben, vous êtes dans l'erreur. Vous donnez au Seigneur, qui peut utiliser vos dons au travers de son église. Mais je ne donne pas à l'église, je regrette. Je donne au Seigneur. Et je suis redevable devant Dieu lui-même. Ma façon de donner est sous le regard de Dieu. Et c'est un privilège. Alors vous savez, je ne sais pas si tout le monde... Là, c'est des gens pauvres. Hein. Ils se précipitent. Ils disent, ah, c'est un privilège, je veux faire partie de ceux qui donnent. Je ne sais pas si nous avons ce même empressement de donner. Est-ce que nous sommes prêts à donner avec une telle joie en considérant que donner est un privilège? Vous n'avez pas besoin de regarder aux autres, à ceux qui donnent ou pas d'ailleurs, pas censé le savoir, mais c'est devant Dieu que vous donnez. C'est merveilleux cela. C'est encore une question de conscience personnelle, c'est devant Dieu. Moi, j'aime cette liberté que Dieu nous donne. Je trouve ça extraordinaire. Oui, j'ose le dire, l'Église, ce n'est pas du communisme où des choses sont tout imposées. C'est une liberté profonde de jouir de ce privilège de donner, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est triste quand on veut donner des fois qu'on n'a pas. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce qu'il y a tellement de joie à donner au Seigneur, à donner à son œuvre. Verset 5, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, vous allez me dire, comment ça, Paul ose dire, nous l'espérions. Oui, Paul avait une attente, vis-à-vis des Macédoniens. Il a enseigné la vérité au sujet du besoin des saints à Jérusalem, et maintenant il dit qu'il avait une attente, qu'il avait une espérance de réponse envers les Macédoniens. Et est-ce que l'enseignement du Seigneur crée une attente? Oui, elle crée une attente. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, dit l'apôtre Paul, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Là, vous allez dire, waouh, la volonté de Dieu pour donner, c'est de se donner au Seigneur. Donner est un acte essentiellement spirituel. Ce n'est pas un calcul matériel. C'est un calcul spirituel. Ça vient du cœur spirituel. Ça ne doit pas être un calcul simplement matériel. C'est un calcul spirituel qui demande une consécration. Je crois que c'est Salomon dans un proverbe qui disait « Mon fils, donne-moi ton cœur ». C'est dans la mesure où on donne son cœur au Seigneur qu'il a aussi, quelqu'un a dit, notre portefeuille. Mais j'aime pas trop utiliser ce mot, mais qu'il peut gérer ce qu'il convient de faire selon ce qu'il nous a donné. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. En fait, l'apôtre Paul est très pratique. Il ne dit pas ici, vous avez donné, c'est bien. Les choses sont organisées. Il y a parfois des gens qui ont des difficultés à penser que parce qu'ils donnent à des choses organisées, ils ne donnent pas au Seigneur. Mais quand on vit un esprit de collectivité ou d'objectif commun, on donne ensemble parce qu'on s'est donné ensemble au projet. On a à cœur un même projet parce qu'on croit qu'il vient de Dieu, et c'est comme ça que Dieu bâtit son œuvre, son Église et sa mission dans le monde. Alors l'apôtre Paul continue pour encourager les Macédoniens. Il dit au verset 7, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » il exhorte les Corinthiens parce qu'il dit, voilà, vous avez tout, mais vous avez aussi besoin d'apprendre l'excellence dans la façon de donner. On peut être très spirituel. Et un jour, moi, j'ai rencontré quelqu'un, bon, j'ose vous le dire, ne jugez pas ce que je vais dire, d'accord ? Il m'a dit, mais moi, je donne la dîme de mon temps, je prie, etc. Et de l'air de dire, ben, j'ai pas besoin de donner au Seigneur. Moi, je ne crois pas du tout cela. L'excellence dans la vie chrétienne inclut que Dieu soit maître de notre argent, de nos biens. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Waouh ! Là, il touche vraiment le profond du cœur. Il dit, mais si vous donnez, vous devez donner avec amour. Vous devez être sincère, et puis que ce ne soit pas un acte d'hypocrisie, que ce soit vraiment un acte qui soit fait avec amour. Donner doit toujours être fait avec amour. Et voilà l'exemple que Paul donne maintenant aux Macédoniens. Il dit ceci, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Nous avons l'exemple parfait. Jésus, qui était dans la gloire, qui était avec toutes les richesses du ciel, et qui s'est dépouillé pour se faire homme, s'incarner, devenir homme, et puis être prêt à mourir sur la croix, s'appauvrir au point d'être mis au banc des malfaiteurs, mourir sur la croix, afin que nous puissions être sauvés, être enrichis spirituellement, être sauvés. Le principe est donc que si Jésus, lui, de riche qu'il était, s'est pas approuvé pour enrichir les autres, l'exemple à suivre, qui est une grâce, c'est aussi de dire « je peux m'appauvrir pour enrichir les autres ». Dieu ne nous trompe pas. Lorsqu'on donne, on n'est pas trompé par Dieu. Vous avez peut-être été trompé par des gens à qui vous avez donné. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est bien décevant. Mais encore là, si vous avez donné devant Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle de cela, c'est Dieu qui est souverain. Alors verset 10, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Paul est en train de dire, vous étiez bien empressé quand je vous ai parlé du projet, mais là on dirait que vous êtes ralenti. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, soyez ferme dans votre engagement. Je pense que le danger de la vie chrétienne, parfois, parce qu'il y a des circonstances adverses, on est attaqué par l'ennemi, on a des épreuves, chacun de nous, jour après jour, on pourrait baisser les bras, ralentir. Mais Dieu nous dit ceci, soyez ferme dans votre engagement, parce que c'est la volonté de Dieu. Si vous étiez empressé de vous engager dans un projet, mais maintenez votre engagement, parce que c'est un engagement personnel devant Dieu. Je ne m'engage pas devant les hommes, je m'engage devant Dieu, et je suis engagé devant Dieu en donnant. Enfin, verset 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Je me souviens, je vous raconte ça, parce que ça m'avait frappé d'une dame, alors que j'étais pasteur au Canada et que notre église avait 14 personnes au début, hein, et c'était tout un défi. Et il y a une dame bien intentionnée qui levait toujours la main pour augmenter le budget. Alors c'était très bien, mais le problème c'est qu'on n'avait pas les moyens de suivre ses idées. Alors la bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir et non pas de ce qu'elle n'a pas. Donc il faut être raisonnable. Donner n'enlève pas la raison. Je me souviens un jour d'un jeune couple qui est venu me voir, jeune converti à l'église, quand j'étais aussi au Québec, qui me disait, nous on veut donner, commencer à avoir tout un plan, mais ils avaient plein de dettes. J'ai dit, écoutez, frères et sœurs, bien-aimés, commencez à régler vos dettes, commencez à savoir ce que Dieu veut concernant vos finances, et entrez dans le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas donner, mais vos dettes sont trop importantes, commencez à donner avec raison. Ça s'apprend à donner. Et parfois, on a besoin d'être enseigné pour savoir comment donner. Mais je pense que je vais arrêter là, parce que je vais continuer, et le texte ne s'arrête pas. J'aimerais quand même conclure, m'arrêter là le texte, si vous me permettez, mais conclure avec une liste de promesses. On va terminer avec cela. Voilà. On a vu que comment donner, d'accord? Mais non, ça ne marche pas. Je sais pas. Bon. Vas-y, continue. On va terminer avec une liste de promesses. On va regarder. Alors, tournez dans vos Bibles. Proverbe 3. Proverbe 3, versets 9 et 10. Proverbe 3, versets 9 et 10. Il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Autrement dit, Dieu nous appelle à donner par la foi et évidemment, l'inverse de la foi, c'est l'incrédulité. C'est de retenir ce que Dieu veut que l'on donne. Mais de donner ce que Dieu veut que l'on donne est un acte de foi que Dieu va continuer à pourvoir à nos besoins. Et que Dieu va pourvoir à nos besoins. Malachie 3, versets 8 à 10, je pense que c'est assez connu. Bien sûr, c'est un contexte de l'Ancien Testament, mais le principe est à retenir. Malachie 3, versets 8 à 10, il est écrit « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé, dans les dîmes et les offrandes ? Vous êtes frappé par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne veux pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Donner, c'est susciter la bénédiction de Dieu dans nos vies. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. La Bible nous dit, en Matthieu, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est encore la vérité spirituelle que donner est un acte spirituel. Luc 6, 38. Il est écrit « Donnez et il vous sera donné ». On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19, on termine avec cela. Il est écrit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Moi, je trouve que c'est une merveilleuse promesse, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Nous avons tout pleinement en Christ. Donner et vient du cœur de Dieu dans nos vies. C'est un acte de grâce, de joie, volontaire, de générosité. Et c'est aussi un acte qui plaît à Dieu. Alors, comment donnons-nous, frères et sœurs ? Est-ce que c'est avec joie ? Est-ce que c'est avec grâce, avec contrainte, avec amour, ou sans contrainte, générosité? Et puis, juste dire ceci, est-ce qu'on a reçu le plus beau des cadeaux, qui est le don de Dieu, qui est Christ lui-même, comme l'offrande unique, comme nous a rappelé Étienne dans son introduction tout à l'heure, qui nous comble de ses bienfaits, de son salut? Prions, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci de nous avoir rappelé ce matin l'essentiel au sujet du don. Mais merci, Père, de ce que tu t'es donné toi-même, entièrement, par Jésus-Christ, sur la croix. Et en reconnaissance, nous donnons nos vies. Nous ne sommes rien, mais Seigneur, tu as permis que ce rien puisse te glorifier. Et nous te sommes reconnaissants de vouloir nous utiliser dans nos vies, par la personne de Jésus-Christ en nous, afin de te glorifier, en nous donnant nous-mêmes, Seigneur, tout notre être entier, corps, âme, esprit, notre intelligence, nos émotions, notre volonté. et aussi notre argent, ce que tu permets que l'on possède, qui en fait n'est pas notre possession, mais la tienne. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tout appartient. Rien ne nous appartient, même pas nous-mêmes. Aussi, nous t'apportons, Seigneur, nos cœurs consacrés comme un sujet de louange et une bonne odeur de sacrifice volontaire qui t'est offert ce matin pour la louange et la gloire de Jésus-Christ. Amen.